tearing down.
Sur les ondes du mix des cultures, nous venons de cette belle île des Caraïbes qui est la Jamaïque, bien évidemment. Une musique à retrouver évidemment en rotation sur les ondes du mix des cultures et bien surtout dans notre playlist à 8h27. Et bien nous allons retrouver dans quelques instants Iman qui va vous raconter une histoire.
Ça commence bien. Non, ça paraît de marcher. Ça marche pas comme je voulais. Comme une nerf. Ah oui, ça va aller maintenant.
Bienvenue dans le pire reste à venir. Tous les lundis, mardis, jeudi. Et vendredi, 8h10 à 9h. 99.102.4.
J'ai collé une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut reconnaître. C'est du brutal.
Allez, à 8h28, c'est Iman que l'on retrouve pour nous parler d'un des projets de la radio HDR.
Exactement, vendredi dernier s'est terminée la semaine de préparation du court-métrage « Raconte-moi mon histoire », une quatrième édition qui, rappelez-vous, nous fait voyager au cœur du monde viking. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Et justement, c'est la même semaine, j'avais déjà pris quelques petites impressions des jeunes acteurs. Et après le tournage, donc vendredi midi, j'ai pris leurs derniers avis, à commencer par Swahilia, 10 ans.
Qu'est-ce que t'en as pensé ?
J'ai bien aimé.
T'as bien aimé ? Qu'est-ce que t'as préféré ?
Quand on est allé à la cité immersive.
Donc lundi ou aujourd'hui ?
Les deux.
Qu'est-ce que t'as préféré ? T'as préféré plutôt visiter ou carrément incarner un personnage ?
Incarner un personnage.
Toi, t'étais qui dans le court-métrage ?
J'étais Adèle, la fille de Roland.
Et t'as eu beaucoup de scènes ou t'as participé qu'à une seule scène, deux, trois ?
Une seule.
C'était laquelle ?
C'était le banquier.
Et t'avais un long texte, donc on te verra bien dans le court-métrage, non ?
Oui.
Oui ? T'es contente ?
Oui.
Super, merci beaucoup.
Une semaine qui a su charmer les enfants, notamment grâce à la cité immersive en grande partie. Et c'est aussi Tom qui nous en parle.
Comment tu te sens ?
Bah bien.
Toujours très bien. Toi, t'étais qui dans le court-métrage ?
J'étais un garde.
Un garde ? Et donc, c'était quoi ton rôle globalement ?
Bah, c'est d'aller de poursuivre les enfants qui étaient entrés dans la salle du trône. Et je parlais quelques fois dans la deuxième scène.
Et qu'est-ce que t'as préféré cette semaine ? Qu'est-ce que t'as préféré faire ?
Bah là tout de suite quand on a fait le film.
Donc le tournage, t'as pas eu trop peur devant les caméras ?
Non, j'ai l'habitude.
Ah ouais, pourquoi t'as l'habitude ?
Parce que ça fait la deuxième fois. La troisième fois.
Et si tu devais retenir une chose que t'as vraiment beaucoup aimée et une chose que t'as un peu moins aimée cette semaine, ce serait quoi ?
Bah moi ce que j'ai aimé c'est
le tournage.
Et ce que j'ai moins aimé c'était de rester dans la salle.
Rester dans la salle quand on était à la métropole là-bas là ?
Oui.
Parce que tu trouvais ça long des fois ?
Oui. D'accord. Surtout la pause.
La pause le midi ?
Oui. Pas le midi mais l'après-midi.
Une expérience toujours très sympathique à partager. En tout cas, moi, c'était la première et j'ai adoré partager ça avec tout le monde. Je tenais aussi à remercier tous les acteurs qui ont pu rendre ce tournage possible. On pense à la métropole de Rouen, Sonia, Naïm, Ludovic, Gladys, tout le personnel de la cité immersive, Kérif Gauche, tous les enfants qui ont été super, Sarah, la metteuse en scène, Antonin derrière la caméra et William, le chargé de projet de la radio, sans qui ce projet n'aurait jamais vu le jour. N'oubliez pas, le court-métrage, si vous nous suivez sur les réseaux, vous l'avez vu, mais il est bientôt disponible sur notre chaîne YouTube Radio HDR. HDR. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur TikTok, Facebook, Instagram, Radio HDR sur toutes les plateformes.
Merci beaucoup Imane, hein. Effectivement on salue toutes ces personnes qui ont pu participer et faire en sorte que ce court-métrage soit possible.
Oui, une grosse dédicace à William qui a réalisé ce projet dans la 4e édition cette année. Et une grosse pensée pour le travail qu'il fait en tant que chargé de projet, parce qu'on ne parle pas souvent de lui, mais c'est vrai qu'il nous accompagne sur pas mal de choses.
Et bah c'est un très beau teasing, hein, puisque sachez que vous le retrouverez peut-être au micro à la semaine prochaine pour nous parler de son activité, de ses activités bien évidemment, et peut-être qu'il ne sera pas seul, mais ça, seule la vie nous confirmera la chose. Et attention, à 8h32, on va s'envoler vers un petit mix musical qui nous amènera tranquillement vers la chronique des mamans de Madame Flore, qui aujourd'hui est partie à la rencontre d'une certaine Célia Le Vavasseur, mais on va vous en parler dans quelques secondes.
Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique des mamans parlent aux mamans. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision de deux mondes éducatifs qui s'affrontent, celle du distal et celle du proximal. D'un côté, il y a un héritage très français, très psychanalytique, porté par des figures médiatiques comme Caroline Goldman. C'est cette idée que l'enfant naît avec des pulsions négatives, qu'il faut le dresser, le séparer de sa mère, le laisser pleurer pour qu'il devienne autonome. Une vision sans aucune preuve scientifique, mais qui sature nos ondes et nos librairies. De l'autre, il y a la théorie de l'attachement. Là, on parle de besoins primaires, de proximité, de bras, de câlins. C'est ce qu'on appelle le maternage proximal. Et là, contrairement aux idées reçues, les études scientifiques se comptent par milliers. Plus un enfant est sécurisé tôt par la présence de ses parents, plus il sera un adulte solide. Ce conflit, il dépasse le cadre de la maison. Il s'installe jusque sur les bancs de l'éducation nationale. En France, on demande encore à des enfants en bas âge de rester assis des heures sans bouger. dans un système qui exclut souvent les parents à la grille de l'école. On est à l'opposé des modèles nordiques, comme en Norvège, où l'école est un lieu de vie ouvert, où l'on respecte le rythme biologique de l'enfant et où le parent est un partenaire, pas un étranger. Pour nous éclairer sur ces sujets, j'ai eu le plaisir de rencontrer une voix qui compte, le docteur Célia Levavasseur. Elle est pédiatre à la maternité du Belvédère à Mont-Saint-Aignan, auteure de plusieurs ouvrages de guidance parentale et présidente d'une association qui lutte pour la bientraitance obstétricale. Docteur Levavasseur, selon vous, est-ce que la bientraitance des enfants progresse ?
D'un côté, ça progresse grâce aux attachementistes, donc la théorie de l'attachement de John Bowlby, où il y a des milliers d'études en cours, passées et futures, qui se bat désespérément contre les psychanalystes, avec Caroline Goldman et toute la bande. Là, il n'y a aucune étude scientifique, aucune preuve de ce qu'ils avancent. En deux mots, les psychanalystes pensent que l'enfant, quand il naît, il est mauvais, il a des pulsions anales, orales, sexuelles, et qu'il faut que le père sépare la mère de l'enfant, qu'il faut laisser pleurer l'enfant, il faut le rendre autonome, il faut le séparer, il faut qu'il dorme seul dans sa chambre, parce qu'il est plein de pulsions négatives. Et dans la théorie de l'attachement de John Bowlby, l'enfant a des besoins primaires, et il faut y répondre le plus vite possible par la proximité. Dès qu'il pleure, le prendre dans les bras, le câliner, dormir avec ses enfants, quel que soit leur âge, jusqu'à ce qu'ils soient sécurisés, pour avoir le plus de chances d'avoir un enfant sécur. Ça, il y a des milliers d'études là-dessus. Il n'y a pas d'études sur la psychanalyse, ils ne veulent pas en faire, ils considèrent qu'il n'y a pas besoin d'en faire. Donc Freud, on sait qu'il a été abusé sexuellement par son père, on l'a su après. On sait qu'il a dit que beaucoup de femmes étaient abusées sexuellement, il s'est fait rejeter de la société autrichienne parce que c'était insupportable d'imaginer qu'autant de femmes, une sur quatre, sont abusées sexuellement et un enfant sur cinq. Et donc, il a dit non, je me suis trompée, en fait, c'est des fantasmes, c'est des pulsions. Et à cause de lui, c'est lui qui a créé le mythe d'Oedipe, la castration, les angoisses de castration. Tout ça n'existe pas. C'est prouvé que ça n'existe pas. Et on continue à le dire, et on est en France à cause de Lacan, extrêmement psychanalytique. C'est pour ça qu'on entend dès la maternité, le prends pas trop dans les bras, tu vas en faire un enfant capricieux, laisse-le pleurer, mets-le dans sa chambre, mais qu'est-ce que tu fais, arrête de lui donner le sein, tu vas être son esclave, tu vas être dominé par ton enfant, c'est toi qui dois le contrôler. Et qu'on a Caroline Goldman, qui est psychanalyste, la fille de Jean-Jacques Goldman, qui est psychologue, et qui a malheureusement beaucoup de temps d'écoute sur les grandes radios françaises, qui publie des livres où elle raconte qu'on est la risée de tous les autres pays du monde, parce qu'elle explique qu'à 10 mois, il faut laisser pleurer un enfant tout seul dans sa chambre pendant 20 minutes. Et si on revient dans sa chambre au bout de 20 minutes et qu'il pleure encore, on le relaisse 20 minutes. Et que ça, c'est prouvé que c'est de la maltraitance. Mais elle, elle le dit sur une chaîne de grande écoute. Elle vend des milliers de livres. Comment ça se fait qu'on lui laisse autant d'écoute? Et moi, on me propose de faire des débats contre elle, parce que ben, bien sûr, de voir des gens qui se disputent, c'est tellement bien. Ça perd les parents. Donc, on a notre mouvement psychanalytique français depuis 1900 à cause de Freud et Lacan qui dit le bébé, il faut qu'il dorme tout seul dans sa chambre, il faut le laisser pleurer, il faut pas le porter, il faut le mettre en crèche le plus vite possible, il faut le scolariser, il faut le sociabiliser, il faut s'en séparer et le père doit séparer la mère de l'enfant. Et ça, on a démontré que c'était toxique et que c'était pas bon. Donc, on a tous les attachementistes, toute l'éducation, la discipline positive de Jane Nelson qui montre comment on fait pour répondre aux besoins, pour faire coopérer et non plus obéir les enfants. Donc ça, ça avance. Dans le carré de santé, il y a marqué qu'on dort avec son enfant, qu'on ne laisse pas pleurer. Donc, on voit quand même que dans les politiques, il y a eu tout un décret là sur la petite enfance qu'il faut répondre aux besoins par la proximité. On voit que les choses avancent. Ça, c'est super. Par contre, dans les médias, ce qui passe, et donc ce que mamie, elle entend, c'est les médias. Et les médias, ils disent, Caroline Goldman, le time-out, laissez-le pleurer. Et des horreurs, mais des horreurs. Moi, je suis traumatisée quand elle parle. Si le médecin, si la grand-mère, si la tante, si le père dit, mais non, laisse-le pleurer, si tu vas en faire un enfant capricieux, ça sera de ta faute, ben on veut le mieux pour son enfant, donc on le laisse pleurer. T'allumes la radio, tu l'entends parler, tu l'entends qu'il dit ça, ben donc tu dis que c'est elle qui a raison, c'est elle qui a fait des études. Les parents, ils sont complètement perdus, puisqu'il y a les attachementistes et l'État. Quand même, ce que je vois bien dans les critères de l'HAS, je vois bien que ça bouge, que les décrets de la petite enfance vont dans le sens attachementiste. Les parents en consultation, ils sont perdus, parce que dans les médias, ce qu'ils entendent, c'est l'inverse. Il y a deux grands, grands mouvements. Et les Canadiens, quand j'ai fait un congrès international sur l'attachement, ils sont venus me voir à la pause en disant « Mais c'est une blague ce qu'on entend, c'est pas vrai qu'elle dit ça et qu'elle a grande écoute et tout ça. » Ben si, c'est vrai. Donc pourquoi les médias ? pourquoi ce milieu-là? Est-ce que c'est parce que c'est la fille de Jean-Jacques Goldman? Est-ce que c'est parce qu'elle est connue pour d'autres choses? J'en sais rien. Elle est dangereuse, mais personne ne peut la faire taire. Non, mais pourquoi on lui donne la parole? C'est surtout ça, avant de la faire taire. Donc ça avance d'un côté, mais ça recule de l'autre. Donc je sais pas quoi conclure, franchement. Moi, ce que je vois en consulte, c'est que les parents sont perdus parce qu'il y a ces deux grands mouvements. C'est comme les livres. Pourquoi j'ai écrit aussi? J'en avais marre de lire des bêtises. Les parents me montrent des bêtises, notamment Caroline Goldman, donc je me suis dit, moi aussi, je vais écrire. Il faut contrebalancer. En France, on a un gros problème avec les psychanalystes qui ont tous les pouvoirs, qui ont vraiment les médias, qui ont quand même du pouvoir et qui obtiennent des choses, mais hallucinantes. Et on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Anne Reynaud, elle était médecin généraliste, elle a validé la psychiatrie, donc mais elle était généraliste, elle a fait des livres sur la théorie de l'attachement. Et vraiment que les gens se renseignent quand ils vont voir un psychologue, par exemple, si c'est un psychanalyste ou un attachementiste. Il faut vraiment faire attention. Quand on achète un bouquin, quand on regarde une vidéo, il faut se renseigner sur c'est quoi les ressources de ces gens-là qui vont affirmer haut et fort que c'est eux qui ont raison. Le fait de ne pas dormir dans la chambre et dans le lit des parents, c'est l'Église catholique qui a enlevé de notre pays les enfants parce qu'il fallait pas voir la sexualité. Et après, Freud et les psychanalystes, ils étaient évidemment d'accord avec eux. Mais le mal a été fait avant. Parce que quand on visite une ferme du Moyen-Âge, on voit bien qu'il n'y avait qu'une seule chambre, avec un rideau, tout le monde était là-dedans, ça posait problème à personne. Quand on regarde, je suis très fan de Rendez-vous en terre inconnue, on se demande pas où va dormir l'enfant, on sait très bien qu'il va dormir avec les adultes, et que tout le monde va bien. On est 5% de la population à faire ce qu'on fait avec nos enfants, à avoir une éducation qu'on appelle distale. Et les autres, ils sont dits proximaux. Et on croit que c'est nous qui avons raison et que c'est la norme. 95% des humains sont élevés, accroché dans le dos, sur le côté, au sein tout le temps, dormir dans le lit, et je te la passe, et la cousine, et la tante, et tout le monde allaite tout le monde, et tout le monde prend soin de l'enfant, il y a un village entier, et l'enfant n'est jamais seul. Et nous, il est en face à face avec le parent, alors, droit dans les yeux, et on lui parle, et on croit qu'on fait bien. L'enfant, il a besoin de contact physique, il a besoin de proximité, il a besoin des bras, il a besoin des seins, il a besoin du lit. Quelle prétention on est! Dans la médecine, tous les 10-20 ans, on accepte que les choses, elles aillent à la poubelle, on réapprenne des choses et on apprend, quand on fait médecine, l'histoire de la médecine. Freud fait partie de l'histoire de la médecine, Lacan aussi. Les parents, ah, on vient parce qu'il y a un problème avec Oedipe. Ça n'existe pas, Oedipe. Non, mais il a peur de l'étranger. Ça n'existe pas non plus. Non, mais là, il n'y a pas de reconnaissance dans le miroir, il n'a pas la permanence de l'objet. Ah ben, il l'a dès la naissance. Non, c'est à 18 mois, on nous a dit. Ah non, c'est dès la naissance. Il y a des études scientifiques. À un moment, ça suffit, quoi. Et Héloïse Junier, elle arrive à faire changer les textes des formations. Donc, les jeunes professionnels au niveau national vont être mieux formés. Qu'on soit neurotypique ou atypique, toute façon, c'est de la faute des parents. Ça, c'est Freud, hein. Tout est de la faute des parents. Tout est de la faute de la mère, soyons précis. Mais il faudrait revoir toute l'éducation nationale. Parce que les enfants ne sont pas faits pour être assis sur des tables sans bouger. La concentration n'est pas possible. C'est de démontrer scientifiquement que ce qu'on leur demande, c'est pas possible. Et on continue. L'école, elle a pas changé depuis quasiment la création de l'école. Comment ça se fait qu'on a des téléphones portables maintenant qui font tout ce qu'on veut et que l'école soit exactement pareil? Nous, la maternité, les papas n'avaient pas le droit d'être là, il y avait pas de visite, les dames restaient 15 jours, tout a changé. Nous, on a accepté de changer. Pourquoi l'éducation nationale reste totalement archaïque alors qu'on a des données qui prouvent que le cerveau d'un enfant, il peut pas tenir assis sur une chaise? Et en plus, quand ils sont pas sages, ils sont punis à la récré. Déjà, le système n'est pas le bon. Les parents, l'éducation nationale, à la crèche, les professionnels de santé, déjà pour un enfant normal, on leur demande de faire du distal. Tout seul, dans sa chambre, d'être puni, de manger tout seul, de s'habiller tout seul, de faire tout seul, d'être autonome, le grand mot. Donc un enfant atypique, évidemment que ça explose. On peut en parler des heures, mais déjà sur le normal, ils n'y arrivent pas. Comment voulez-vous qu'ils y arrivent sur un atypique? La Norvège, il n'y a pas de cours d'école, il n'y a pas de barrière. Les gens peuvent traverser, faire leurs courses et traverser l'école. Tout est mélangé. Les parents y ont accès tout le temps. Ils peuvent passer la journée à l'école avec leur enfant dans la classe s'ils veulent. Nous, c'est une espèce de chasse gardée où ils font ce qu'ils veulent. C'est une prison. Les parents n'ont pas le droit de rendre visite à leur enfant. Rien qui va.
Vous l'aurez compris, le message du docteur Levavasseur est clair. Il est temps de sortir de la culture du caprice et du dressage. La science nous donne aujourd'hui le droit et même le devoir d'écouter notre instinct. Pour continuer ce cheminement, je vous invite à découvrir la collection très concrète du docteur Célia Levavasseur qui redonne du pouvoir aux parents. Mon projet de naissance pour préparer une grossesse qui vous ressemble vraiment, la Voie lactée, le manuel indispensable pour un allaitement sans stress, Bébé est là, le petit guide pour les premiers pas quand on se sent un peu perdu. Guide pour les jeunes parents qui ne veulent pas mourir d'épuisement avec ses 66 conseils salvateurs. Et le tout dernier, grand-parent cool pour aider l'entourage à se mettre à niveau et à être au top. Choisir le proximal, c'est choisir la bientraitance. Merci au docteur Levavasseur pour ce rappel nécessaire. Nos enfants n'ont pas besoin de plus de limites froides. Ils ont besoin de plus de nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des Mamans parlent aux mamans. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. N'oubliez jamais que vous faites un travail immense et que vous êtes de vraies guerrières.
Merci beaucoup, hein, Flore. Merci beaucoup, hein, pour ce sujet très intéressant et cette interview qui, fait se poser beaucoup de questions justement sur l'éducation. C'est ce que me disait Naïm, par exemple. Est-ce que je dois élever, est-ce qu'on doit élever nos enfants tels que en ce moment et depuis des années on nous dit de le faire. Voilà.
Non, moi je pense plutôt qu'il faut savoir s'adapter à notre époque, en fait. Si mission se réfère à l'éducation que nous on a reçue ou que nos parents ont reçue, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et heureusement d'ailleurs. Donc après, c'est une question d'adaptation. Mais c'est un long débat qu'on pourrait pas forcément distiller comme ça dans une matinale et qu'il faudrait faire une émission entière.
Ouais, vous le faites très bien d'ailleurs. Vous venez de me donner une émission, c'est-à-dire une idée d'émission, dans laquelle on vous entendrait réagir. Hein, par rapport à des sons, des interviews. Le commentaire de Naïm, les commentaires de Naïm, ce serait un petit peu le nom de cette émission. Vous avez un avis sur un sujet, Naïm peut le commenter. Oui, il est en capacité, et même ce, dès 8h du matin, il ne lui suffit que d'un ou deux cafés, et la machine est lancée. En tout cas, on vous remercie.
Vous connaissez ma modestie légendaire.
Ah, c'est votre deuxième prénom, non?
Ouais, c'est hein, ça.
C'est ça, bien évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, à Flore pour ce sujet et l'interview sur l'éducation proximale et distale, qu'il est bon de tous les mercredis de se lever et d'apprendre des mots. C'est une réalité et je le dis véritablement avec cette interview donc de Célia Levavasseur, pédiatre et autrice d'ouvrages autour de la guidance parentale, que vous pouvez retrouver cette interview évidemment sur les réseaux sociaux de la radio HDR, sur YouTube, Instagram, Facebook, bien évidemment
Spotify.
Et on va s'arrêter là parce que c'est déjà pas mal, hein. En tout cas, vous avez la possibilité si vous le désirez. Dans quelques secondes, juste après ce petit jingle, on va retrouver les... on s'en va vers les résultats sportifs de la semaine du week-end avec l'homme qui à chaque fois essaie de rentrer de sa chronique, c'est-à-dire le sport, c'est-à-dire il enfile tous les mercredis matins un maillot de sport différent. Aujourd'hui, il sent que la Coupe du Monde arrive dans quelques semaines, hein, vous allez bien évidemment le ressentir, et il a choisi de mettre justement son maillot de l'équipe de France. C'est JC qu'on va retrouver juste après attendez, je galère. Je retrouve son jingle qui est ici et on le retrouve tout de suite dans cette chronique des sports.
À mon top HDR en mouvement, l'instant sport et le sprint des scores. 1, 2, 3, 4. Top!
Alors, mon cher JC, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, vous êtes arrivé avec brio. Justement, on va passer maintenant la page des sports. Bonjour JC, excusez-moi.
Bonjour Nicolas, bonjour chers amis sportifs, bienvenue dans le sprint des scores, la chronique où tout va vite sauf moi.
Ah super, oui je confirme, hein. Le week-end, comme tous les week-ends, ont été très riches sur les terrains de la région. Alors, est-ce qu'on a fait le plein de victoires?
Oui, nos clubs ont brillé, ils ont eu un match très serré et des belles victoires précieuses.
Ah super, on démarre donc avec le Rouen Normandie Rugby. Alias RNR, hein, ils ont été impressionnants samedi dernier puisqu'ils ont fait vibrer le stade Robert Diochon.
Tout à fait, le RNR recevait l'US Brésame au stade Robert Durouchon, pardon, excusez-moi. Belle victoire à notre équipe rouennaise, 43-14. Merci Robert.
Hey, merci Durouchon, bien évidemment. On passe au handball. Et là, vous avez beaucoup de résultats à nous donner.
Oui Nicolas, les Rouen handball étaient partout. On commençait par les féminines F1. Elles ont gagné samedi 18 avril. 30-27 contre l'Entente Bro Léo.
Pour c'est bien ça, l'Entente Bro Léo.
Ouais, c'est cool. Hein.
Ouais, j'adore ce nom.
Pour les hommes, dimanche 19 avril, les seniors M2 ont emporté 35-33 contre Marc Handball. C'est pas mal aussi comme nom.
Bah ouais, je préfère Christophe Handball, moi.
C'est un peu plus difficile pour les hommes de la M1, défaite 25-32 contre Caen Handball 2. Mais ils rejouent dès ce samedi.
Ah, ils auront peut-être une autre chance. Football, le Rouen Sapin FC a encore frappé très fort.
Et pas
sur les poteaux.
Non, surtout au ballon. Tout à fait. En Régional 3, les M1 ont remporté la victoire 2-1 contre FC Saint-Étienne du Rouvray. Les seniors M3, eux, ont réussi un carton.
Là, c'est normal.
5-0 contre Grand Quevilly Football Club 3, qui sont premiers du classement.
Ah, quand même.
Seuls les seniors M2 ont perdu 4-2 contre Côte-Bec Saint-Pierre FC3.
On termine avec le football américain.
Les Léopards ont joué samedi 18 avril à Mermoz contre les Molos, dernière sur scène. Nos joueurs ont souffert. Ouais. En réalité, une défaite 19-54.
Ah oui,
ils se sont fait manger là.
Ah, c'est pas si facile, hein, toujours. Hein. Des fois, ça tient qu'à un fil. Merci pour ce bilan. On sort les agendas pour ne rien rater.
Tout à fait. Voici les rendez-vous du week-end. Le samedi 25 avril, côté rugby, RNR contre Tarbes.
Ouais.
Côté handball, les seniors M1 contre Chartres Métropole 2. Le lendemain, le dimanche 26 avril, et oui, il y a le handball. Là, c'est la section des seniors F3 contre Lisieux et les seniors M4 contre MBC Offay Tôtes 3. Et côté rugby, là, chez les femmes, les Valkyries, il y avait longtemps, contre le Stade Rennais. Le basket, notre chère équipe des Hauts-de-Rouen vont affronter.
Ah.
Olympique de Darnétal.
Eh oui.
Là, je crois que c'est un bon match. Hein.
Ah bah,
qu'est-ce que vous pensez, Nicolas?
Ça va être très dur. Hein. Sachez que à Darnétal, comme.
On a la dalle?
Non, comme justement le mot qui précède Darnétal Olympique. En fait, qu'est-ce que ça signifie?
Bah, c'est parce qu'il y a plusieurs clubs.
Plusieurs disciplines sportives,
oui.
Surtout. C'est ça,
exact.
En fait.
Vous avez trouvé mes mots que je cherchais.
Je vous en prie. Et en fait, voilà. Vous savez où se situe Darnétal?
Effectivement.
Ah, voilà, effectivement. Et donc, à côté de cette rivière.
Le Robec.
Tout à fait. Ce qui nous a confère un espace de jeu et d'entraînement multisport, aussi bien en natation, en kayak.
Ah ouais,
voilà, multisport. N'oublions pas le waterpolo, hein, qu'on peut pratiquer à Darnétal.
Ah, ça, je savais pas.
Dans le Robec. Eh bien, ce qui nous procure des possibilités lorsqu'on est jeune de s'entraîner, d'effectuer du sport. Et voilà, on arrive à des âges d'adolescence, 15 ans, on est quasiment des demi-dieux, en fait, quoi. Donc,
c'est génial, ça.
Et demi-dieux. Olympique de Darnétal, vous comprenez aussi, oui. La symbolique, c'est à vous, excusez-moi.
J'ai perdu le fil, alors on était côté football.
Ouais, les seniors M1
contre le plateau de Cacimpo.